Et bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur l'Internet. Dieu vous bénisse dans cette belle journée ensoleillée. Je vois la vigne sur notre terrasse qui rougit. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Tout va bien ?
Oui.
Gloire à Dieu. Hier soir, nous étions invités par nos amis Crosa à un concert de Gospel. C'était magnifique, une femme qui chantait avec juste un batteur et un guitariste. Et c'était vraiment très bon, on aurait dit un peu... Moi, je retrouvais un peu la voix de Malia Jackson, que j'aime beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez Malia Jackson, allez sur Internet, vous allez voir, elle chante, c'est magnifique. Bien, nous avons prié le Seigneur et lui demandé sa bénédiction pour ce culte de ce matin. Jésus, je te bénis parce que tu es avec nous encore aujourd'hui et tu exauces notre prière, tu parles à nos cœurs, tu ouvres notre intelligence pour que nous comprenions les choses, que nous ne mélangeons pas tout et que nous sachions comment faire ta volonté, comment nous préparer pour les choses à venir. Merci Jésus de nous aider à cela. Amen.
Amen.
Amen. On va faire une lecture ce matin dans le Lévitique au chapitre 25. C'est l'année du jubilé. Verset 23. Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient, et vous êtes chez moi comme des étrangers et des émigrés. Je vais un peu plus loin, verset 32. Quant aux villes des Lévites, rappelez-vous que les gentons, on est des Lévites. On est dans la Vulgate, il y a mon nom. Hein. Quant aux villes des Lévites et aux maisons ils y possèdent, les Lévites auront un droit perpétuel de rachat. Si quelqu'un achète une maison des Lévites, il sortira de la maison vendue et la ville et de la ville où il la possédait lors du jubilé, car les maisons des Lévites et des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des Israélites. Amen. Ça c'est bien. Verset 38, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. » Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. L'opposition à Dieu et à Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, l'opposition à la lumière, l'opposition à la vérité, ça a existé depuis, déjà avant la fondation du monde. Déjà avant la fondation du monde, puisque la Bible nous dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel avant la fondation du monde, et la Bible nous dit aussi qu'elle ne se terminera que lorsque les mauvais seront jetés dans les temps de feu. Pour le moment, il n'y a personne dans les temps de feu. Vous avez des bouquins chrétiens qui sortent et qui vous racontent que c'est des bonnes femmes qui ont vu, en général, c'est des dames un peu, voilà quoi. Elles ont vu Michael Jackson en enfer, elles ont vu le pape en enfer, c'est des rêves, elles ont dû manger un cochon qui avait mangé une cochonnerie juste avant d'aller se coucher. Ça n'existe pas, il n'y a personne en enfer pour le moment, parce que c'est à la fin qu'ils seront jetés dans les temps de feu, c'est pas encore maintenant, il n'y a personne dedans. Dieu est en train de le construire, en train de le préparer pour toute cette racaille, le faux prophète, l'antichrist et tout ce qui s'ensuit, mais c'est pas encore là, c'est pas demain la veille, c'est pas demain. Maintenant, nous-mêmes, personnellement, nous avons à lutter contre, c'est vrai, les puissances dans les lieux célestes et tout, mais il faut aussi avouer quand même, frères et sœurs, qu'on a à lutter contre les mauvaises tendances de notre nature, n'est-ce pas, charnelle. Vous n'avez pas une nature charnelle, vous ? Alors je suis le seul. C'est vrai qu'il y a deux puissances sur cette terre, et au milieu de ses habitants. Il y a la puissance de Dieu, puis il y a la puissance du diable, le menteur, le tueur dès le début. Et de nos jours, nous voyons la condamnation de l'ennemi approcher, il la voit aussi, alors il redouble d'efforts, et il trouble les âmes humaines comme jamais auparavant. Maintenant, les gens savent plus ce qui est bien, ce qui est mal. On prend les choses du diable pour les choses de Dieu, c'est un mélange terrible, un mélange terrible. Les puissances de destruction influencent fortement maintenant les âmes humaines. Elles glissent vers le bas. Les âmes humaines sont le terrain de guerre. Le terrain de guerre entre le bien, Dieu, et le mal, Satan, et toute sa clique. Alors, il nous revient de choisir notre camp et d'être ferme dans ce camp. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. Je ne suis absolument pas d'accord avec ceux qui cherchent à donner une date pour le retour pour l'enlèvement de l'épouse. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ils font des calculs, ils ont raison, c'est bien, c'est gentil, c'est tout ce que vous voulez. Ce n'est pas interdit dans la Bible de faire des calculs. Les prophètes, la Bible nous dit qu'ils faisaient des investigations, ça veut dire que c'était pas toujours, ils ne recevaient pas toujours ça d'une façon miraculeuse. Ils faisaient des investigations aussi, ils ont le droit de le faire. Mais moi, je ne fais pas partie de ces gens qui font des calculs comme ça. J'ai d'autres choses à faire, ce n'est pas mon ministère. Mais Jésus nous dit de regarder quand même aux signes. Donc, il faut aussi quand même regarder aux signes. Et ce matin, on va regarder un signe, toujours en rapport avec le rétablissement de toutes choses dont le Seigneur nous a parlé dans Actes chapitre 3, verset 21. Ça y est, je me rappelle la référence. Avant, je disais toujours 3:19. Maintenant, je sais que c'est 3:21 depuis le temps. Moi, vous savez, moi, les chiffres, c'est terrible. Donc, c'est... Aujourd'hui, on va regarder surtout le signe d'Israël et le signe particulièrement de Jérusalem. Mais pas comme on l'a vu jusqu'à ce jour. En 2017, nous serons tous, la Terre entière, en 5777 années juives. En fait, nous sommes déjà en 5777 années. Parce que les Juifs sont déjà entrés dans leur année 5777. Pour nous, gentils, ça ne veut pas dire les gentils comme ça, les gentils mignons, ça veut dire les non-juifs, quoique moi je suis juif, pour nous, 2016 touche à sa fin. Et un fait marquant s'est produit. Mais on n'a pas tellement entendu parler. Le 13 septembre dernier, Shimon Peres a été victime d'une attaque de santé très grave. Vous avez dû voir ça à la télévision. Le 28 septembre, il en est mort. Or, Shimon Peres était le dernier père fondateur de l'État d'Israël. Vous le savez, ça. Tous les hommes politiques les plus influents et les femmes politiques les plus influentes de la planète sont allés à son enterrement. Mais de quel enterrement s'agissait-il ? Je crois que ça a été les funérailles définitives du processus de paix. Ce processus de paix dont Shimon Peres a été l'instigateur privilégié. Souvenez-vous que c'est Shimon Peres qui a secrètement initier les contacts avec Arafat, un accord avec un terroriste, quand même, il faut le dire, un accord qui ne pouvait pas aboutir parce que cet accord, il s'opposait clairement aux nombreuses déclarations que l'Éternel, notre Dieu, avait faites. Dans toute la Bible, avec tous les prophètes, Dieu a dit que cette terre-là, elle est à Israël. On ne discute pas avec les terroristes à ce sujet. Or, depuis les accords officiels, accords dits de Oslo, aucune paix n'est venue. À moins que je sois complètement gaillouf. Le sang a continué à couler de part et d'autre de façon épouvantable. Et ça devient de pire en pire et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ok, on se souvient de la date de la signature des accords d'Oslo. Vous en souvenez ? Non, vous en souvenez pas, c'est normal. Eh bien, c'était le 13 septembre 1993, date anniversaire de l'attaque de santé de Shimon Peres, 13 septembre 2016. De plus, l'enterrement d'Oslo, ou de Shimon Peres, si vous voulez, a eu lieu la veille de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le commencement de l'année 5777. Ça vous paraît pas étrange? Et à la veille du Kippour, la fête du grand pardon. Dieu a donc convoqué les puissants de ce monde qui ont bradé la terre d'Israël pour leur signifier maintenant, en 2017, en 5777, leur échec total. Voilà, il les a invités là, tous. Ils étaient tous en Israël ce jour-là. C'est pas formidable, c'est pas un signe, ça? Là, je suis pas en train de raconter des trucs cousus de fil blanc. Là, le texte que nous avons lu dans Lévitique 25, c'est le texte concernant le jubilé. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte-là? L'année du jubilé, c'est l'année où il fallait affranchir tous ceux qui avaient des dettes, versets 23 à 38. Vous lirez tout ça chez vous, je ne voulais pas vous lire tout ça, parce que c'est long. Mais c'est aussi l'année où les prisonniers doivent être libérés, versets 39 à 55. C'est l'année où la maison des Lévites, qui avait été achetée par d'autres, dont ils avaient trois parts, par exemple, doivent être rendus au propriétaire initial. Les esclaves devaient être relâchés. Les débiteurs devaient être absous. Tous les biens devaient retourner à leur propriétaire initial. La terre devait être laissée en jachère pendant une année. Le 10e jour du 7e mois juif marquait le début de la 50e année de la rédemption universelle. Or, à la veille du jubilé de 5777, il était absolument légal, selon Dieu, selon les Écritures, de juger le traité d'Oslo définitivement comme un traité de fausse paix. Qu'est-ce que cela présage? Ben, ça présage des actions divines de restauration. Restaurant. La restauration de toutes choses, le rétablissement de toutes choses, mais aussi de jugement. Il n'y a pas de rédemption sans justice. Pour nous, disciples de Jésus-Christ, nous savons bien cela. Il n'y a pas de salut sans justice. Et la justice de Dieu, elle est tombée sur Jésus-Christ, Yeshua, à la croix. Donc maintenant, nous n'avons plus à passer par un acte de justice. Nous avons déjà été jugés et graciés. Mais maintenant, il y a tout le reste du monde. Alors, à quoi nous attendre, nous qui sommes des graciés au milieu de ce monde? Vendredi soir, je vous disais qu'il fallait vous préparer à des événements pénibles. Ça arrive. C'est le temps. Nous y sommes. Il va y avoir de grands bouleversements avec de terribles conséquences. Il se pourrait bien qu'en 2017, les Juifs commencent à reconstruire leur temple. Alors tous les chrétiens évangéliques sentimentaux disent « Alléluia !» Non, pas Alléluia. Ce temple qui va être construit pour que l'Antichrist puisse aller s'asseoir dedans afin de dire « Je suis Dieu ». Voilà ce que la Bible nous dit. Oh, réveillez-vous un peu. C'est terrible, n'est-ce pas? Regardons les deux derniers jubilés. Les deux derniers jubilés, c'est tous les 50 ans, vous vous rappelez? Premier jubilé du 20e siècle, ça arrive en général deux fois par siècle, puisque c'est tous les 50 ans. C'était en 1917. Le général anglais Allenby entre à Jérusalem et met fin à la longue occupation turque des Ottomans, comme on disait à l'époque. Vous vous souvenez? Moi, je ne me souviens pas de ça, je n'étais pas né. Ma mère n'était pas née non plus. C'était en 1917. Deuxième jubilé du XXe siècle, 1967, les para-israéliens reprennent Jérusalem, guerre des six jours, 50 ans après, pile poil. C'est pas bizarre, ça? Les effets du jubilé de 1967 ont été immenses sur le monde entier, parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'une année. Quand ça commence, après il y a une année. La révolution a pété un peu partout dans le monde, ça a été en France au mois de mai. Ça n'a pas changé les choses, mai 68? Mais les plus jeunes parmi nous ne se rappellent pas comment c'était avant. Moi, je me rappelle comment c'était avant. C'était super. Partout, un peu partout dans le monde, il y a eu des révolutions qui sont arrivées à ce moment-là. Résultat, ça a été le glas qui a sonné pour ce vieux monde, insipide et gris, mais quand même, vous avez eu Peace and Love, vous vous souvenez de ça? Il jouait Peace and Love. Mais c'était aussi le sexe, la drogue. Interdit d'interdire, on voyait ça écrit partout. Même au Péreux où on habitait, je vous rappelle, il y avait un mur où c'était écrit, quelqu'un l'avait écrit en gros, là, interdit d'interdire. C'était quoi tout ça? C'était ni plus ni moins que l'effondrement de tout l'édifice moral et spirituel que le judéo-christianisme avait établi depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. C'était l'effondrement. Et maintenant, eh bien, c'est un chaos indescriptible. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Nous, on disait ça. Je me rappelle, quand je me suis converti en 68, on le disait déjà. Les gens nous prenaient pour des fadas. Mais non, c'est bien, 68, c'est bien de se révolter, c'est bien. Il y a eu des bonnes choses, oui, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu le rock and roll. Et Sylvie Vartan, c'est Philippe qui me souffle ça. Alors. Non, mais elle était déjà là avant. Hein. Et ce chaos, il va aller en s'amplifiant en 2017, année du jubilé. C'est obligé. C'est obligé. C'est même pas une prophétie. C'est obligé. Eh oui, mes frères et sœurs, le chaos dans le monde, en perte de ses repères judéo-chrétiens d'Occident, va s'aggraver. C'est obligé. Les gens deviennent de plus en plus infantiles. Il y a tout qui s'effondre, ils jouent au Pokémon. Mais pas seulement les jeunes, hein, des vieux débris comme moi aussi. Les leaders politiques sont ridiculisés, mais par leur propre faute. Non mais vous avez vu ce qui nous pend au nez? Non mais vous avez vu ce qui nous pend au nez? Mamma mia, comme disait l'autre barbu. Et Dieu continue de ramener les Juifs en Israël en attendant la venue de la plus haute autorité, celle de Yeshua, le Messie, qui descendra du ciel après que l'Antichrist se soit assis dans le temple à Jérusalem. Vous avez une chronologie de ce qui va se passer. Je ne dis pas que ça va se passer en 2017, hein. Je ne dis pas ça. De toute façon, Jésus ne va pas revenir descendant du ciel en 2017, ce n'est pas vrai. Il ne reviendra que 7 ans après l'enlèvement de l'épouse. Donc vous voyez, ça fait... Même si l'épouse était enlevée aujourd'hui, il faudrait encore 7 ans avant que Jésus revienne. Pour régner 1000 ans. Vous voulez 1000 ans, c'est là qu'il y aura une destruction totale. Donc vous voyez, ce n'est pas de manavelle. Mais la perte de nos repères judéo-chrétiens, ça va continuer à avoir des effets pervers dans tous les domaines. Dans l'enseignement, je fais exprès de dire l'enseignement en premier, parce que je connais pas mal de personnes qui sont dans l'enseignement. Dans la médecine, dans l'éthique, dans les arts, dans la culture, de plus en plus, ça va dégénérer. Vous avez vu maintenant? Jamais on aurait cru ça maintenant. On a une médecine à 2 ou 3 vitesses en France. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. La chienlit, disait De Gaulle, en parlant de cette année-là. Eh oui. Et on sent venir, c'est pas que moi, hein, une guerre civile ici en France. On la sent venir. Ce n'est pas des bisounours, hein. Et puis en Europe aussi, ça va péter, ça c'est sûr, ça ne va pas continuer comme ça, c'est très probable que ça va péter en 2017. Alors, je dis rien de la décadence et des extravagances qu'on va encore voir dans les églises. J'en parle même pas, ça va m'énerver. Mais il va y avoir un petit reste qui va briller comme des petites flammes un peu partout sur cette terre, et c'est ceux-là qui seront enlevés, pas les autres. Enlever in extremis. Alors que faire? Premièrement, se repentir. Tous. Se repentir. On a tous à se repentir. Et ensuite, à agir selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu écrite et rétablie avec le bois d'Éphraïm. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis là, allez écouter mes prédications précédentes, vous comprendrez. Agir selon la volonté de Dieu écrite et rétablie avec le bois d'Éphraïm. Combattre les pouvoirs de ténèbres toutes ces forces invisibles qui nous entourent et qui cherchent à nous embrumer, mener une guerre véritablement. Je sais qu'il y a des gens dans l'armée qui m'écoutent, par exemple Elisabeth Bonnet, elle sait ce que c'est que une guerre contre des difficultés que vous allez avoir à faire face à des choses dont vous ne vous attendez absolument pas. Il va falloir mener une guerre, ça sera une guerre spirituelle, je ne vous dis pas de prendre des armes et puis d'aller... Non, ce n'est pas ça. Mais ne baissez pas les bras. 2017 va être une année difficile. Et ça a déjà commencé parce que depuis le lundi 3 octobre 2016, Rosh Hashanah chez les Juifs, eh bien nous sommes en 5777. Nous sommes dedans. Année du jubilé, ça a déjà commencé. Depuis le 3 octobre, on est combien aujourd'hui? 9 quoi? Octobre, oui, ça fait pas longtemps. L'année du jubilé, cette année 5777, n'est pas forcément l'année où l'épouse sera enlevée. Je ne dis pas ça. Ça peut arriver, mais je ne dis pas ça. Je dis simplement que, en tout cas, ce sera cette année la préparation des événements et la précipitation des événements vers cet événement-là qui s'enclenche d'une façon, c'est fini maintenant, c'est terminé. Ça va aller très vite. Ça, c'est sûr. Mes frères et sœurs, et surtout vous, les frères et sœurs de la communauté fidèle, le diable savait que notre découverte du bois d'Éphraïm, que nous avons ajouté au bois de Juda, selon Ézéchiel 37, 16, il savait que ça fondrait nos cœurs, que ça souderait nos cœurs, et que ça nous donnerait l'huile pour nos lampes. Alors il s'est déchaîné contre nous. Trahison, forcé à l'exil, maladie, on a tout eu. Et nous avons tout fait. Tout ce que nous avons subi, mes frères et sœurs, n'est pas survenu parce que nous avons enfreint la loi. Tout ce que nous avons subi ne nous est pas survenu parce que nous avons été plus méchants que d'autres. Non. Mais c'est parce que le bois d'Éphraïm posait sur notre fondation ce qu'il fallait pour nous préparer à l'enlèvement. Et ça, ça rend le diable fou furieux. Alors j'ai été frappé sur la joue droite. Michou, mon épouse, a été frappée sur la joue droite aussi. Les fidèles de la communauté ont été frappés sur la joue droite aussi, traités de fanatiques. Et nous avons tous tendu l'autre joue. Alors ça ne signifie pas que nous avons été passifs. Tendre notre joue, ça ne veut pas dire être passif. Je vous le disais vendredi, mais je le redis parce que c'est une idée révolutionnaire. Tendre l'autre joue, quand Jésus dit « Tendez l'autre joue, si on vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite », ça ne veut pas dire « Soyez passifs ». Ça veut dire « Allez-y, frappez !»« Ah, continuez, frappez-moi !»« Vous ne me ferez pas changer !» Voilà ce que ça signifie. Je ne bouge pas, je ne changerai pas, je ne rejetterai pas le bois d'Éphraïm. Nous ne vous suivrons pas dans vos errances. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, nous le savons. Et nous le constatons. Frappez à gauche, frappez à droite. Cela ne changera pas notre volonté d'agir comme le Saint-Esprit nous l'a dit. C'est pas étonnant que le diable est fou furieux. Et puis qu'il incite les méchants à la guerre contre nos œuvres. Et il le fait partout, il n'y a pas que nous, il le fait partout, partout où Dieu agit, l'ennemi se déchaîne. Depuis qu'il s'est révolté contre Dieu, avant la création du monde, ça a toujours été comme ça. Mais là, il redouble d'efforts parce qu'il sent sa fin qui approche. Pauvre diable, disait Osborne. Il avait bien raison. Mes frères et sœurs, Jésus est au gouvernail. Jésus est au gouvernail. Sans lui, nous ne pourrions pas résister à la puissance qui nous fait la guerre. On ne pourrait pas. Et c'est ainsi que ça sera de plus en plus. C'est-à-dire que partout dans le monde, c'est seulement ceux qui se rapprochent de Jésus de sa volonté et critères établis qui pourront résister dans les moments difficiles. C'est pourquoi j'exhorte chacun de vous qui m'écoutez ou qui regardez la vidéo à être humble et à vous repentir. J'exhorte chacun d'entre vous à marcher dans l'humilité. Arrêtez de discutailler, de toujours vouloir avoir raison. Nous devons nous rendre compte de nos devoirs, de notre position en Jésus-Christ, dans le corps de Christ. Et nous devons nous adresser au Seigneur avec humilité et vivre près de lui. Alors, nous serons, au milieu des ténèbres, comme des gens qui voient clair. Nous verrons clair, même au milieu des ténèbres. Nous serons comme le jeune serviteur d'Élisée qu'on trouve dans 2 Rois 6, 8, 17, qui a eu les yeux ouverts tout d'un coup et qui s'est rendu compte que ceux qui se battaient avec lui étaient plus nombreux que ceux qui se battaient contre lui. 5777 va être terrible pour le monde entier. Mais les éléments de l'opposition ne font que hâter l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Mettez votre confiance dans votre Père Céleste. Quand toutes ces choses vont se déclencher de façon terrible, n'oubliez pas cela. Comptez sur les promesses du Seigneur. Comptez sur les promesses du Seigneur. Vivez en accord avec la lumière et la connaissance que vous possédez et tout ira bien pour vous. Tout ira bien pour vous, que vous soyez vivant ou mourant. Le Seigneur veille sur nous dans les moments d'épreuve qui viennent. Il nous fortifie déjà, il nous avertit. Selon notre foi, notre humilité, notre obéissance, il nous donne ce dont nous avons besoin. Et les catastrophes, les conflits qui vont augmenter ici-bas, sont des choses qui auront une signification. Nous comprendrons pourquoi elles arrivent. Alors que les autres seront dans le désarroi. Souviens-toi que tout ce qui va t'arriver, c'est pour ton bien. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui a été appelé selon son dessein. Il faudra quand même juste que tu t'adaptes au fur et à mesure que les choses arriveront. Il va falloir jouer serré. Il va falloir s'adapter. Maintenant, je ne peux pas vous dire comment. Ça va être au fur et à mesure. Mais Dieu va nous montrer. Dieu va nous éclairer. On ne sera pas pris au dépourvu. Tes ennemis et les obstacles que tu vas rencontrer te sembleront graves, mais ils ne seront là que pour t'aider à mieux te connaître et à mieux connaître Dieu, ton Sauveur. Alors souviens-toi de ça. J'ai eu une grande conversation par Internet avec un frère. Tiens, le nom m'échappe, chérie, c'est le frère... si, le frère avec le chèque, là, de...
Macari.
Moi, les noms, c'est terrible. Bonjour, frère Macari. Une grande conversation au sujet de notre passé éternel. Mes frères et sœurs, ton esprit dans le passé éternel, avant que tu viennes sur la terre, a choisi de venir vivre dans ce monde. Ton esprit a choisi de venir pour accomplir et expérimenter ce qui doit arriver ici. Ce qui vient, ce qui arrive, ce qui va arriver. Ton esprit a choisi de venir dans ce monde pour accomplir des expériences qui vont te faire grandir et qui vont te permettre de pouvoir te présenter devant le Père Céleste avec une grande valeur. Quand tu le retrouveras, parce que notre corps va être semé et rendu à la terre d'où il vient, mais notre esprit va retourner à Dieu, puis ça veut bien dire qu'il y était avant, dans Ecclésiaste. Tu as choisi le pays où tu es. Tu as choisi l'époque où tu vis, dans ton passé éternel. Tu as choisi d'être un humain. Tu as choisi ça. Tu as choisi tes parents. Tu as choisi ton corps. Alors, prends conscience que Ce qui t'entoure est en fait issu de ton désir d'apprendre. Tu es venu ici pour apprendre afin de pouvoir être fort, grand et capable de recevoir de Dieu des récompenses qui te permettront de diriger des mondes, des villes, dans la future création. Sachant toutes ces choses-là, mon frère, ma sœur, tu n'as plus le droit de te plaindre. Ouais, de temps en temps, un petit peu. Mais arrête de tomber dans la plainte, dans les gémissements, dans les murmures, comme le font les incrédules, les ignorants. Les incrédules, c'est les ignorants. Tu n'as plus à ressentir un sentiment d'injustice face à ce qui t'arrive. Parce que c'est toi qui as choisi. En présence de Dieu dans ton passé éternel. Alors regarde, écoute et perçois pourquoi ton esprit a choisi ces épreuves-là pour pouvoir évoluer. C'est ça qui est important. Ça, c'est important pour toi, pour chacun d'entre nous. On a chacun notre lot. Ce que je vous enseigne là, c'est un secret brut. Comme on dit, hein, on dit ça, brut de béton, hein, boum, je vous donne ça comme ça en bloc. Après, on peut en discuter, on peut en parler. Mais ça n'est pas donné à tous de comprendre, de connaître ces choses. Même les gens qui vont entendre parler ne vont pas forcément le croire. Alors, rendez-vous humble, mes frères et sœurs, c'est ça surtout. Croyez ça, rendez-vous humble et vivez en conséquence. Si tu le fais, ça sera moins difficile pour toi. Vraiment, ça sera moins difficile pour toi. Je ne dis pas que ça ne sera pas difficile, mais ça sera moins difficile. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Réfléchissez-y. Si vous faites votre devoir, si je fais mon devoir, nous serons protégés. C'est la promesse de l'Éternel. C'est la promesse de l'Éternel. Et on traversera les afflictions dans la paix, dans la sérénité, dans la sécurité. Parce que la main de Dieu sera sur nous. Ce qu'il nous faut absolument, c'est de l'indépendance d'esprit. Être indépendant de toutes ces croyances nounouilles que les gens essayent de mettre en nous, de religieux, de bêtes. Non, nous devons être des gens pratiques selon le bois de Judas et le bois d'Éphraïm. 1. Indépendance d'esprit. 2. L'honnêteté du cœur. 3. La foi en Dieu. 4. La force de caractère. La force de caractère, c'est comme la force physique, ça se développe. Dis pas, il n'y a pas de force de caractère. Développe-la, ta force de caractère. Ça se développe. Il nous faut tout cela pour vivre une vie de disciple, Luc 14, 33, pour nous autres, face au monde, qui nous désapprouve. Et au milieu de toutes ces épreuves qui arrivent, ces conflits, ces persécutions. Comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, voilà quel nom. Eh bien, ne craignez pas la destinée qui vous attend. Ne craignez pas. Jésus le répète 365 fois dans la Bible. Enfin, la Bible dit 365 fois, ne craignez pas. Une fois par jour. Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. Toutes les choses se mettent en place. Moi, ça me réjouit. Je sais que c'est bientôt fini. Youpi, c'est super. Que Dieu soit béni. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, réfléchissez, et prenez des notes et puis préparez-vous. Il faut se préparer. Je pense qu'il va falloir même préparer des réserves de nourriture, je pense. Voilà. Seigneur, je te prie que tu bénisses mes frères et sœurs et que nous puissions chacun d'entre nous être vraiment soudé à ta parole et la vivant au plus près de ce que nous comprenons. Nous te demandons de nous éclairer davantage afin que nous comprenions mieux pour pouvoir vivre mieux à ta gloire. C'est là ma prière, ma prière continuelle, toujours la même. Je te remercie Seigneur Jésus de fortifier chacun d'entre nous et que lorsque ces choses difficiles arriveront, nous soyons tous balèzes. Spirituellement parlant, physiquement parlant, pour pouvoir aussi tenir. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir.